Voilà donc, bonjour chère auditrice, chers auditeurs, nous sommes vendredi le 26 avril et vous êtes en direct avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus du pouvoir et les injustices de notre société contemporaine, une émission qui favorise la parole de la victime prioritaire. Alors chers auditeurs, chères auditrices, vous le savez probablement mieux que moi, les victimes dans notre société sont de plus en plus nombreuses et leur voix est tellement étouffée sous les décombres de l'injustice que nous arrivons à peine de l'entendre, cette voix qui fait pitié et qui disparaissent dans la plupart du temps dans le silence de l'oubli, sinon dans l'indifférence, l'insensibilité, la froideur d'une conscience collective, notre conscience qui s'éteint chaque jour davantage. Victimes, mes chers auditeurs, chères auditrices, peut dire aussi perte de dignité, parce que la dignité n'est pas d'autre chose que le respect que l'on doit à l'autre. Alors si quelqu'un se retrouve dans cette situation, c'est parce que quelque part ses droits n'ont pas été respectés. C'est parce qu'il n'a pas été respecté en tant qu'individu avant tout, et vous comprenez plus facilement que cette descente devient de plus en plus désastreuse quand c'est l'État ou ses institutions qui deviennent acteurs de ce viol. Autrement dit, l'État qui est supposé par un contingent de lois et de forces protéger la dignité de cet individu deviennent par défaillance, négligence, incompétence, par un mauvais calcul destructrice, démolir, détruire peu à peu tout ce qui reste à l'individu, sa dignité. Et encore, il faut dire, un semblant de dignité qui reste parfois accroché sur la peau. Quand l'homme est attaqué dans sa dignité, c'est l'essence même de son existence qui est remise en question. Saviez-vous, chère auditrice, chers auditeurs, pourquoi nos gouvernements n'ont pas de soucis ou bien ne soucient point de cette interrogation? C'est parce que tout simplement l'homme, avec un grand majuscule, n'est plus le centre de ses préoccupations. Que vous crevez de faim, que vous n'ayez pas de travail, que vos enfants ne réussissent pas à leur étude, que votre santé se dégrade ou non, que vos droits les plus fondamentaux sont bafoués et que votre vie c'est l'enfer et j'en passe, tout ça dans l'exercice politique n'est que la partie théâtrale du spectacle. Et si vous pensez vraiment que les personnes qui sont chargées de ces dossiers et d'autres ne dorment pas la nuit en pensant à vous parce que vous avez des difficultés énormes, alors chère auditrice, chers auditeurs, détrempez-vous, réveillez-vous parce que vous dormez encore. Et si vous pensez que le 1/10 de nos textes de loi est appliqué correctement, respecté, respectivement, c'est que vous êtes un peu trop, et je dis bien trop naïf. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous rappelle que nous vivons dans une société trompeuse, une société qui fait venir des milliers de personnes sur son sol en promettant des fausses promesses, prospérité et mon œil, alors qu'en vérité, le quart de sa population vit sous le seuil de la pauvreté. N'oubliez pas et n'oubliez jamais que pauvreté est synonyme de perte de dignité. Ça me fait penser à mon ex-beau-père, c'est un Belge qui est tombé dans le piège d'Immigration Canada. Alors il était un grand cultivateur en Belgique, propriétaire d'une vaste terre et d'une ferme de prestige qui les a hérités, il a hérité de ses parents, autrement dit une famille de cultivateurs de plusieurs générations. Le mieux c'est que mon ex-beau-père est agronome de formation, un grand travailleur, mais un peu naïf comme nous tous. Alors un jour, il voyait de la publicité, le Canada offre des terres et des fermes à ceux qui veulent travailler. La publicité fait ravage et mon ex-beau-père, le pauvre, voyait dans ses publicités des nouveaux projets qui lui promis le paradis terrestre. Et voilà comment le Québec devient pour lui, ainsi pour des milliers d'autres personnes, la terre promise. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu toutes ses propriétés, ses biens. Et puis, il est venu s'installer avec sa petite famille dans le pays de merveille, le Québec. Bref, pour faire une courte histoire de tout ça, après avoir investi toute une vie au Québec, il a finalement tout perdu. Je dis bien tout perdu, incluant la santé, sans vous parler bien sûr de sa faillite, de ses dépressions et de ses tentatives de suicide. Aujourd'hui, il vit de l'assistance sociale et dans une vie misérable, dépourvue de toute dignité. Il compte les derniers jours qui lui restent à vivre. La famille éclatée, donc à jamais, et dans quelles conditions, je préfère ne rien dire, et pourtant je n'ai jamais rencontré un homme plus honnête et plus travaillant que cet homme-là. Ses rêves se sont brisés quand il a compris qu'il a été piégé. Chaque fois que je pense à cet homme-là, des larmes aux yeux. J'ai vraiment des larmes aux yeux. Perdre toute sa fortune, sa famille, sa vie finalement, parce qu'il a été trop simplement naïf, parce qu'il ne pensait pas que les gouvernements peuvent être des escrocs. Simplement aussi que les politiques malmenées peuvent être aussi le pire des pires qui peut arriver. Alors violer la dignité de l'homme, c'est l'empêcher d'être libre, tout simplement, libre de choisir de ne pas vivre sans dignité. Autrement dit, la dignité est aussi synonyme de liberté. Si vous êtes obligé de vivre de la précarité, l'insécurité, la vulnérabilité, c'est que vous ne possédez tout simplement pas votre liberté. Vous n'êtes pas libre et vous devrez subir les conséquences qui suivent. Alors tous ceux qui vivent de la pauvreté ici au Québec, sur ce paradis terrestre, par défaut de mensonge, ceux qui vivent de l'exclusion sociale, la vulnérabilité et l'enfer sont vraisemblablement les esclaves piégés d'un système hautement dangereux. N'oublie pas que nous vivons dans l'un des plus riches pays au monde. Alors qui peut nous dire aujourd'hui pourquoi nous avons autant de pauvres et de misère ? Je rigolais, justement, en lisant une loi québécoise datée, si je ne me trompe pas, de l'an 2005, une loi visant la lutte contre la pauvreté qui stipule dans son chapitre 2, paragraphe 4, que la stratégie nationale vise à amener progressivement le Québec d'ici 2013 en nombre des nations industrialisées comptant le moins de personnes pauvres, selon des méthodes reconnues pour faire des comparaisons internationales. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, ce texte était rédigé en 2013. Et nous sommes en 2013 pour constater que la population des pauvres au Québec a doublé. Et dans ce climat justement insécurisé, le gouvernement fédéral et provincial menace de couper dans les programmes incluant programmes de dernier recours, l'assurance chômage, l'aide sociale et d'autres. Le texte de la loi adoptée en 2005, dont je viens citer, vise à améliorer une situation financière déjà critique, alors que vous voyez que la situation est deux fois plus critique aujourd'hui. C'est que ces textes-là aussi de loi et les projets de loi ne font ou ne sont qu'un écran de fumée sans utilité aucune. Autrement dit, si on se moque tout simplement, on se moque éperdument de la population visée sans gêne aucune. Et s'il faut, on va vous écrire un autre texte de loi. La stratégie nationale vise à éliminer la pauvreté au Québec d'ici l'an 2020. Et nous allons demander aux crimes organisés peut-être aussi de nous aider afin de réaliser ce projet. Cette formule sera peut-être plus rassurante et plus vraie. Savez-vous maintenant, chers auditrices, chers auditeurs, c'est quoi le dernier recours pour un assistant social ? Comment je peux vous les expliquer ? Le dernier veut dire, ici c'est le terminal, c'est la fin du voyage. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ça, sinon c'est le vide, l'extrême. Les assistants sociaux sont rendus à ce stade dans leur voyage et vous devrez comprendre quand quelqu'un se rend à cette station, vous devrez être prudent avec elle. Parce que si elle recule un centimètre en arrière, elle bascule dans le vide. Et je vous invite de lire les statistiques de ces personnes qui ont préféré sauter dans ce vide que de demeurer prisonnier de l'humiliation. Maintenant, si vous êtes un père de famille, par exemple, et vous gagnez 32 000 $, ici au Québec, sachez que vous vivez sous le seuil de la pauvreté. Vous êtes tout simplement pauvre. Combien sont-ils les travailleurs qui vivent sous le seuil de la pauvreté ? Combien sont-ils les chômeurs qui n'ont pas décroché un emploi ? Combien sont-ils les familles qui vivent l'enfer de la pauvreté ? Combien sont-ils les itinérants, les sans-abri au Québec ? L'année passée, ils étaient 20 000. Cette année, ils sont rendus à 30 000. Le nombre des enfants pauvres a doublé. Enfin, bref, dans ce pays dit parmi les plus industrialisés au monde, la pauvreté fait ravage. Le citoyen ordinaire est devenu tout simplement impuissant devant l'arnaque de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Pensez-vous réellement, soi-disant pour un retour à l'équilibre budgétaire, nous devrons sacrifier toute une population qui n'a pas choisi de vivre la pauvreté et l'exclusion sociale ? C'est la question. C'est justement la question que je vais tenter de poser ce matin à notre invité, M. François Saillon, du Front populaire en réaménagement urbain, donc la FRAPRU, que nous allons tenter, je dis bien tenter, de le rejoindre après quelques instants. Alors, nous avons également invité à notre émission d'aujourd'hui Madame Marjoline Dupart. Donc, elle est coordinatrice adjointe au réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes. Elle vient nous parler, entre autres, de la pauvreté, l'itinérance ici au Québec. Voilà, chère auditrice, chers auditeurs, au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni. Donc, il est porte-parole du mouvement Action Justice, un organisme qui fait soi-disant la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer les abus de pouvoir. Mon collègue Adam Richard m'accompagnera le long de cette émission. Donc restez à l'écoute, chers auditrices, chers auditeurs. Après notre thème musical, sommes-nous forcés de vivre la pauvreté et l'exclusion sociale dans l'un des pays les plus riches au monde?
Formidable sur les problèmes de société. Coup des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Ce soir, je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Dans quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés.
Oui, bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans nos sociétés contemporaines. Et notre sujet aujourd'hui, c'est vraiment la pauvreté ici au Québec. Alors, j'ai avec moi en ligne... bonjour, monsieur Saillant.
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur Saillant. Je vous entends mal un petit peu. Allô?
Oui.
Oh, bonjour. Monsieur Saillant, juste pour vous informer que nous avons une émission aujourd'hui, elle est exclusivement, on va parler de la pauvreté ici au Québec. Et la première question peut-être que j'aimerais bien vous poser, est-ce que vous croyez sincèrement que nous avons ce problème-là, ce phénomène-là au Québec?
Ah, c'est très clair qu'on a un problème de pauvreté au Québec qui est important. Là. On a fait au cours de l'automne une tournée au Frappru avec une commission populaire itinérante sur le droit au logement. On s'est prenu vraiment dans les 17 régions administratives du Québec pour entendre des témoignages des gens qui vivent directement les problèmes de logement ou de groupes qui sont en contact avec ces problèmes-là. Et ce qu'on a entendu tout au long de cette commission nous confirme vraiment qu'on a un gros problème au niveau du Québec, au niveau de la pauvreté et de ses impacts, ses impacts sur le respect du droit au logement. Là, on a entendu beaucoup de gens nous raconter des situations extrêmement pénibles, des gens qui vivent soit avec des... qui sont condamnés à payer 50, 70, 80% de leurs revenus pour se loger, puis qui doivent couper dans leurs autres besoins essentiels pour faire ça. Des gens qui vivent dans des taudis absolument inqualifiables, qui sont dangereux pour leur santé, leur sécurité. Des personnes qui vivent dans des logements surpeuplés, des personnes qui sont itinérantes, que ce soit de façon plus visible, comme les personnes, par exemple, qui fréquentent des refuges, ou de façon plus voilée, des gens, entre autres, qui s'entassent dans des logements avec des parents, des amis. Bref, on a entendu toutes les sortes, et cette commission-là nous a vraiment confirmé qu'on a au Québec un gros problème de pauvreté et de logement.
Monsieur Saillant, vous dites, et vous le répétez de reprises, comme quoi on a un gros problème.
Oui.
C'est alarmant. Hein, ça. Comment vous pouvez nous expliquer aujourd'hui?
Ce qui est alarmant, c'est à la fois qu'on a ce problème-là, que ce problème-là ne régresse pas pour une grande partie des gens qui ont à le subir. Là, on a fait certains progrès au Québec. Là, à une certaine période, on a progressé, par exemple, avec la question de la pauvreté des aînés qui a reculé pendant quelques années encore. Plus récemment, on s'est attaqué un petit peu plus à la pauvreté des familles. Et là aussi, on a obtenu certaines avancées. Mais on ne mène pas une lutte d'ensemble contre ce problème-là. Il y a des gens qui se sont appauvris. Je pense particulièrement aux gens, aux personnes seules qui se sont vraiment appauvris par rapport à ce qu'était la situation auparavant, particulièrement les gens qui sont à l'aide sociale et qu'on s'apprête encore à appauvrir dès le mois de juin prochain. Ça, c'est alarmant, mais ce qui est alarmant aussi, c'est le laisser-faire des gouvernements. On s'est contenté de gestes à la pièce, mais on n'a jamais voulu vraiment s'attaquer à ce problème. Mais ce qui existe, suite à attaquer la pauvreté, il y a une façon de le faire, c'est de redistribuer la richesse, et cette volonté-là n'existe pas. Elle n'existe pas sur le gouvernement libéral et elle n'existe pas plus sur le gouvernement péquiste. Elle n'existe pas chez les libéraux fédéraux et elle n'existe pas chez les conservateurs fédéraux non plus.
Mais j'aimerais bien, M. Saillant, c'était très clair ce que vous avez dit, mais j'aimerais bien comprendre comment vous expliquez aussi qu'il y a, soi-disant, au niveau politique, il y a une volonté, c'est-à-dire il y a des textes de loi, des projets de loi, et pourquoi ça dure, cette pauvreté, et ce n'est pas daté d'aujourd'hui, c'est depuis très longtemps.
Non, c'est vraiment pas daté d'aujourd'hui, c'est juste que la société s'est enrichie, qu'on assiste à un phénomène vraiment d'élargissement des écarts. Les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres. Là, c'est aussi simple que ça. C'est vrai qu'on a adopté au Québec, à l'unanimité à l'Assemblée nationale, une loi contre la pauvreté avec un plan qui devait s'échelonner sur 15 ans. Sauf que, moi, je pense qu'on a adopté ça pour se donner bonne conscience, mais on n'a pas mis en place les outils qui nous auraient permis vraiment de respecter ces objectifs-là. Quand on a, au Québec, au milieu des années 90, adopté l'objectif de déficit zéro, c'est très clair, il y avait un plan, il y avait un échéancier financier, il y avait des contraintes légales. Il y avait vraiment des contraintes là, qui t'obligeaient à respecter cette loi-là. On n'a jamais fait ça avec la loi sur la pauvreté. Il n'y avait pas vraiment de contraintes, c'était à des grands vœux, et il n'y avait pas de mécanisme qui faisait des échéanciers précis qui faisaient en sorte que tu avais des objectifs très concrets à atteindre. C'était pour se donner bonne conscience, je pense qu'on a adopté cette loi-là, plus que avec une volonté réelle de mettre fin à la pauvreté. Il faut dire qu'en même temps qu'on adoptait cette loi-là, on baissait les impôts, et baisser les impôts, ce qui était la stratégie adoptée d'abord par le gouvernement du Parti québécois, puis par le gouvernement libéral, ben c'est très clair que tu élargis les écarts, parce que les gens qui bénéficient le plus de baisse d'impôts, ben c'est ceux qui payent le plus d'impôts, donc c'est les gens à plus haut revenu, et les gens qui en bénéficient moins de ce type de stratégie-là, ben c'est les gens qui sont même trop pauvres pour payer des impôts, qui en paient, mais des impôts vraiment qui sont très bas là. Et par ailleurs, on a depuis ce temps-là, au même moment où on a baissé les impôts, on a remplacé ça par des tarifications, par une hausse des tarifications qui, elle, touche plus durement les gens à revenus modestes.
Mm-hmm. Mais M. Saillon, vous êtes d'accord avec moi, est-ce que c'est exact de dire que les choses sont en train de doubler, la pauvreté, le taux de pauvreté double presque, ou ça, il y a un recul vis-à-vis de tout ça?
On a un recul présentement, on a très clairement un recul, et ce ne sont pas les mesures d'austérité qui sont adoptées par les gouvernements tant conservateurs que le gouvernement péquiste à Québec qui vont faire reculer la pauvreté. Bien au contraire, ces mesures-là risquent d'entraîner une aggravation de la pauvreté. Et on en voit déjà des effets et on a déjà des annonces à cet effet-là, notamment les récentes coupures qui ont été annoncées à l'aide sociale, où on veut enlever 129 $ à des gens dont on considérait qu'il y avait des contraintes temporaires à l'emploi. 129 $ quand on revenu est de 733 $, bien, c'est évident que ça fait mal. Et là, on veut rabaisser ces gens-là au même niveau que d'autres qui sont déjà à 604 $ par mois, ce qui est totalement inqualifiable. Le loyer moyen à Montréal est plus élevé que ça. Là.
Absolument.
Et on oblige les gens à vivre avec 604 $ par mois.
Mais M. Saillon, juste pour clarifier un point, c'est que, imaginez-vous, les gens qui travaillent déjà, ils sont sur le seuil de la pauvreté, comme quelqu'un seul qui gagne moins de 16 000 $, il est considéré comme quelqu'un de pauvre. Êtes-vous d'accord?
Effectivement. Ouais. Alors, même si on a eu une hausse du salaire minimum quand même qui était plus importante dans les dernières années que c'était le cas pour le passé, ben travailler au salaire minimum, travailler 40 heures au salaire minimum, ça te condamne encore à être dans la pauvreté. Et là, on sait que les gens qui travaillent au salaire minimum ne travaillent rarement 40 heures. Mm-hmm. La moyenne est plus de 21 heures. Donc, c'est oui, ces gens-là, même s'ils travaillent, ils sont dans la pauvreté.
Alors, il y a une insécurité.
Il y a une insécurité avec tous les problèmes que ça signifie, et il y a une violation flagrante des droits, dont celui à un niveau de vie suffisant pour se loger, se nourrir, se vêtir convenablement.
Alors, j'aimerais bien... Quelle est votre position maintenant face à face aux coupures? Vous êtes sur le terrain, je sais que vous êtes quelqu'un d'un homme de terrain, et est-ce qu'il y a finalement derrière tout ça, est-ce qu'il y a de la lumière au bout de ce tunnel-là?
Ah non, à l'heure actuelle, je vous dirais, s'il y a une lumière au bout du tunnel, c'est dans la résistance à ces coupures-là. Il y a quand même eu beaucoup d'actions qui ont été organisées dans les derniers temps pour dénoncer ces coupures-là. Il y a des voix qui se sont élevées, évidemment, les voix des gens des groupes sociaux, on s'y attendait un peu, mais il y a d'autres voix qui se sont ajoutées, la protectrice du citoyen, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, les directeurs de la santé publique de tout le Québec qui ont dit non, ça n'a pas de bon sens. Cette mesure-là va appauvrir encore davantage des gens qui sont déjà trop pauvres. Et donc, s'il y a de l'espoir, c'est de ce côté-là. Mais là où c'est difficile d'être optimiste, c'est quand on regarde l'attitude du gouvernement du Parti québécois dans ce domaine-là, la fermeture totale à l'heure actuelle qui est démontrée, on semble pas vouloir brancher. Là, personne semble être du côté du gouvernement et de la ministre Agnès Maltais. Et pourtant, s'acharne à vouloir aller de l'avant, là, ce qui en dit malheureusement long là, sur les priorités de ce gouvernement-là.
Et ce qui est quand même assez frappant aussi, c'est la similitude entre la politique de Mme Maltais de l'assistance sociale et la politique de Finlay par rapport à l'assurance-emploi, qui est pratiquement des mesures similaires. Là,
C'est des mesures qui ont des différences, mais dont l'objectif est exactement...
Et c'est ça, le résultat est le même.
C'est d'appauvrir les gens à tel point, des affamés à tel point qu'ils n'auront pas le choix d'adopter n'importe quel emploi sous-payé avec des conditions qui ne respectent pas les conditions minimales de travail ou tout juste. C'est vraiment une politique de cheap labor, d'encouragement du cheap labor.
Ça peut même
rester... d'employeurs qui ne demandent évidemment pas mieux.
Mais M. Saillon, est-ce que d'abord l'occupation du bureau des députés et ces actions-là, de cette population-là, est-ce qu'elle est justifiée?
Allez, tout à fait justifié. La colère est justifiée à l'heure actuelle. Et les gestes qui ont été posés, pour moi, c'est des gestes qui sont tout à fait légitimes d'aller occuper les bureaux de tes députés pour demander des comptes, pour demander à ces gens-là qui se sont fait élire, il faut quand même se le rappeler, en promettant d'être un gouvernement différent de celui qui l'avait précédé, d'adopter des politiques différentes, de renoncer à des mesures, par exemple, comme la taxe santé ou l'augmentation des tarifs d'électricité qu'on va avoir là, dès 2014, l'augmentation de ce qu'on appelle le bloc patrimonial d'Hydro-Québec qui va entraîner des hausses importantes. On s'est fait élire en disant non, on va rompre avec ces mesures-là. Est-ce qu'on s'aperçoit que le gouvernement dirige de la même façon et qu'à l'heure actuelle, c'est très clairement, je vous disais que la politique qui est adoptée, c'est au nom du cheap labor, mais c'est aussi au nom de l'austérité budgétaire. Tout ça est fait au nom de l'austérité budgétaire et de l'acharnement à atteindre le déficit zéro dès cette année, malgré tout ce que ça risque d'entraîner comme conséquence sociale et même économique.
Puis parmi les conséquences sociales, ben c'est ça, vous dites, ça incite à pousser vers le cheap labor, mais ça incite également à pousser vers la criminalité comme moyen de dernier recours. Et là, je veux pas inciter les gens à faire, mais c'est connu que dès que la courbe de la pauvreté augmente, la courbe de la criminalité augmente aussi. Il y a une corrélation directe. Là.
Ben effectivement, c'est une des conséquences que ça a. D'autres conséquences, ben c'est des problèmes de santé qui vont s'aggraver chez des gens. Et on n'arrête pas de nous dire que le budget de la santé accapare une part trop grande du budget du gouvernement. Mais c'est pas en appauvrissant et en affamant les gens qu'on s'attaque aussi à ce problème-là.
Absolument. Alors, M. Saillon, vous nous rassurez de rien pour le moment, finalement.
J'aimerais ça pouvoir le faire, mais malheureusement, c'est pas le cas. Comme je vous disais, il y a quand même des signes encourageants, et c'est du côté de l'opposition à ces mesures-là. L'opposition grandit. Demain, il va y avoir la manifestation contre les coupures à l'assurance chômage, et notamment, il y a des groupes sociaux, dont le FREPRU, le collectif pour un Québec sans pauvreté, le Front commun des personnes assistées sociales, la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec, bien d'autres groupes qui vont se joindre à cette manif-là, mais en dénonçant à la fois les coupures à l'assurance-emploi et celles à l'aide sociale, et en montrant le lien entre les deux. Là. Donc, c'est tout l'enjeu du cheap labor et de l'austérité budgétaire.
M. Saillon, si vous avez un conseil à donner à des gens qui vous écoutent aujourd'hui pour les encourager à continuer leur lutte et leur combat, qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui?
Bien, que les gouvernements reculent, peuvent reculer quand tu as une opposition assez forte. On a quand même vu au printemps dernier, au printemps 2012, la puissance que pouvait avoir l'opposition quand elle se manifestait et qu'elle était forte. Ben, je pense que c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Si on veut s'encourager, je pense que le meilleur moyen de le faire, c'est de prendre la rue aux côtés des gens qui le font, et il y a une occasion demain, là, au 1er mai. Le 27 avril, mais pour la manif du 1er mai.
Alors voilà, donc sur ça, Monsieur François Saillon, je vous dis merci pour votre intervention, merci pour l'éclairage, et on vous donne rendez-vous peut-être la prochaine fois.
C'est moi qui vous remercie, bonjour.
Merci, au revoir. Alors voilà, c'était Monsieur François Saillon, il est coordonnateur du FRAPRU, et j'aimerais bien maintenant peut-être revenir vers mon invité d'aujourd'hui, qui est Marjolaine Dubard. Merci madame d'être acceptée d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez écouté, vous avez entendu Monsieur Saillon parler un petit peu de la pauvreté, et donc êtes-vous d'accord dans le même sens, vous allez dans le même sens, comme quoi la pauvreté c'est un phénomène qui existe et qui est aggravant de plus en plus?
Oui, tout à fait, on va tout à fait dans le même sens. Au RAPSIM, qui est le réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal. Donc, on est un regroupement de plus de 90 organismes à Montréal.
Vous êtes plus spécialisé dans l'itinérance,
hein? Oui, exactement. On est un regroupement de plus de 90 organismes à Montréal qui interviennent auprès des personnes qui sont en situation ou à risque d'itinérance. Ouais. On existe depuis bientôt 40 ans. Et puis, ce qu'on réalise en bout de ligne, c'est à l'heure actuelle, l'itinérance ne fait que croître à Montréal et au Québec. Mmh. Et donc, l'itinérance, c'est la pointe de l'iceberg quand on parle de la pauvreté. Mmh. C'est ce qui est le plus visible. C'est ce qu'on voit dans la rue. Mais donc, voilà. Alors, on peut qu'être d'accord avec les propos de François Saillant quand il nous dit que la pauvreté augmente au Québec et qu'il faut agir pour réduire et freiner les pauvres.
Et si je peux me permettre juste une petite anecdote pour compléter ce que vous venez de dire, justement, quand on parle d'une croissance, là, vraiment de l'itinérance, traditionnellement, à Montréal, l'itinérance est plutôt limitée au secteur du centre-ville, Hochelaga-Maisonneuve, bon, un quartier vraiment, là, Hier, je marchais sur la rue Bélanger ici, et devant le métro, il y avait quelqu'un qui était en train de mendier. Donc, on voit que le phénomène se répand, pas juste en nombre, mais géographiquement, c'est plus juste limité un petit secteur là.
C'est tout à fait ce que nous on constate au RAPSIM. Donc, en 2006, le gouvernement fédéral estimait à 30 000 personnes en situation d'itinérance à Montréal. Donc, c'est pas 30 000 ce soir dans la rue, mais c'est 30 000 qui, au courant d'une année, se retrouvent en situation d'itinérance. Et tout ce qu'on réalise à l'heure actuelle, c'est que ça ne fait qu'augmenter, et justement pas uniquement au centre-ville, mais dans différents quartiers périphériques. C'est le cas, entre autres, dans Côte-des-Neiges, dans Rosemont. La table de quartier de Côte-des-Neiges, et c'est quand même significatif, a fait de la lutte à l'itinérance une de ses priorités pour l'année. Et on n'est pas au centre-ville, on est dans un quartier périphérique au centre-ville, et on voit tellement d'itinérance qu'on se dit, ben, il faut qu'on agisse comme table de quartier dans un quartier comme celui-ci.
Madame Dupart, juste avant, peut-être avant de continuer, de toute façon, on va faire une petite pause musicale, mais c'est vrai que arriver à ce stade-là d'être un itinérant, c'est progressivement, la chute, elle est venue un petit peu de loin. Ça veut dire perte de travail, j'imagine, explosion de famille. Sur ça, j'aimerais bien vous poser quelques questions après, mais on va prendre d'abord une pause musicale et on revient sur ça. Merci bien.
J'ai chanté dans la rue et au Centre national des arts. Puis j'ai chanté tout nu dans mon bain, j'ai chanté pour les morts. J'ai chanté pour du pain, j'ai chanté pour de la bière. J'ai chanté pour du vin, j'ai chanté pour ma mère. J'ai chanté mes peines d'amour à la radio. Tourne les pages, ton tour viendra bientôt. Danse, danse sur les notes blanches. Une parle de guitare, un beau solo. Et chante, chante une tune pour ma tante. Ton tour viendra bientôt. Je veux pas ta main. Gardez vos farces plates pour la danse du smart, la danse des kidjas. J'ai joué du piano pour mes chums pis les voisins. Dans les bars, les bistrots, les bateaux, j'ai joué dans tous les coins. J'ai joué mes meilleures tunes pour ceux qui hurlent à la lune, mes plus beaux accords pour améliorer mon sort. Un piano désaccordé, 25 piastres, j'ai joué du tango. Les pages, ton tour viendra bientôt. Danse, danse, les notes blanches, une basse et guitare, un beau solo. Et brasse, brasse, la passe à ta danse. Fini mon numéro, je veux pas ta main. Puis gardez vos faces plates pour la danse du semaine, la danse des kitchens.
Sa tête. Voilà donc, rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et notre sujet de ce matin, c'est la pauvreté ici au Québec. Et j'ai mon invitée, Madame Dupart, qui est coordonnatrice adjointe hein, de...
du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes
voilà,
de Montréal.
Voilà, celle itinérante. Alors, comme on a bien dit, comme quoi quelqu'un, avant d'arriver à cette étape-là, de devenir un itinérant, sans abri, pouvez-vous nous dire en quelques mots comment on peut arriver à ce stade-là?
Bien, il y a autant de parcours qu'il y a de personnes. Oui. On ne pourrait pas dire qu'il y a un profil ou qu'il y a un parcours. Pour des gens, ça va être une série de difficultés qui vont mener à la rue, une perte de travail, une rupture.
Mais dans la plus grande majorité. Oui.
On ne peut pas parler d'une plus grande majorité. Oui. Il y a autant de parcours qu'il y a de personnes. Il y a des gens que c'est hyper abrupt, ça va arriver du jour au lendemain. Oui. Par exemple, on pense à des personnes qui sortent d'institutions, qui vont sortir de centres de détention.
Exactement.
S'ils n'ont pas eu un accompagnement préalable, peuvent se retrouver à la rue. Pour eux, ça va être assez abrupt. Pour d'autres, ça va être un cumul de difficultés qui va mener à la rue.
C'est la difficulté, c'est ça, voilà. Okay.
Donc, c'est différents enjeux, mais pour nous, c'est surtout l'itinérance, ça, on pourrait le qualifier par une série de droits bafoués. C'est les droits au jour le jour des personnes que tout le monde a, qui sont reconnus dans les chartes pour l'ensemble de la population, mais qui, pour les personnes qui sont en situation d'itinérance, se retrouvent à être bafouées au jour le jour, qu'on pense justement au droit au logement, droit à la santé, droit à avoir un revenu décent. Et même le droit d'occuper l'espace public, hein, les personnes itinérantes qui reçoivent des milliers de dollars de contraventions pour des gestes anodins posés dans l'espace public pour lesquels monsieur, madame, tout le monde ne recevront pas de contraventions.
Mmh, oui.
Donc, c'est différents droits comme ça qui se retrouvent à être bafoués au jour le jour quand on est en situation d'itinérance.
Oui. Et c'est des gens-là, on part de... Est-ce que vous pouvez les situer comme quoi ils sont le pire dans les, sur l'échelle de la pauvreté, là, ils sont le plus bas?
Mais c'est
quelqu'un
sûr
qui
que
sans abri, là, il n'a pas de...
C'est sûr que quand on se retrouve en situation d'itinérance, généralement, on a épuisé toutes nos ressources.
Voilà.
On peut encore avoir un chèque d'aide sociale, mais c'est à peu près tout. Hein. C'est difficile. Si on parle justement de retour en emploi et tout ça, c'est ce que visent entre autres les nouvelles réformes à l'aide sociale. On veut remettre les gens en emploi. Mais quand on parle de personnes en situation d'itinérance qui peuvent avoir des gros trous dans leur CV parce qu'ils n'ont pas travaillé pendant des années, quand on parle de gens qui n'ont pas de numéro de téléphone ou qui doivent faire la file à 14 heures pour avoir une place dans un refuge, c'est vraiment difficile. On se demande vraiment quel employeur va avoir envie d'embaucher une personne comme celle-là. Quel employeur va se dire, mais moi, je vais faire l'effort, puis je vais faire l'effort d'aller rejoindre la personne là où elle est, c'est-à-dire dans un refuge ou dans un centre de jour, ça ne sera pas nécessairement évident. Donc, c'est sûr que c'est vraiment la pointe de l'iceberg quand on parle.
Madame Dupart, vous m'avez dit, je pense que c'est vous qui m'avez dit que l'année passée, on a été 20 000, les itinérants étaient 20 000, sont rendus aujourd'hui, probablement à 30 000.
Non, en 30 000, on parlait de 30 000 personnes itinérantes en 2006 à Montréal.
Okay.
C'était les estimations du gouvernement fédéral.
C'est moi qui suis en fédéral.
Et actuellement, nous, ce qu'on peut témoigner, c'est tout nous prouve que ça a augmenté. Qu'on parle, par exemple, on peut regarder les statistiques de fréquentation des refuges pour hommes à Montréal. Mm-hmm. Cet hiver, entre le 15 décembre 2012 et le 31 mars 2013, il y a eu une hausse de la fréquentation de 4,5%.
Mm-hmm.
Donc, c'est au-dessus de 2800 nuitées de plus qui ont été offertes dans les refuges pour hommes à Montréal.
Quand même, hein.
Et ça suit 5 années de hausse. Donc, c'est pas une seule année. Ce n'est pas anodin. C'est quand même 5 ans où ça augmente la fréquentation.
Il y a des banques alimentaires aussi qui subissent la même pression.
Tout à fait. Et les banques alimentaires nous témoignent de voir de plus en plus de personnes sans adresse venir cogner à leur porte. Donc, on parle de personnes qui sont sans abri. Les ressources d'hébergement pour femmes débordent à longueur d'année. Elles affichent complet. Elles étaient sorties en conférence de presse en novembre 2011 en disant « On crie au secours, on refuse des femmes à toutes les nuits et ça continue.
Ouais. »
Donc, toutes ces statistiques-là nous démontrent en fait qu'on parlerait aujourd'hui de même plus que 30 000 personnes en situation d'itinérance à Montréal.
Ouais.
Je vais peut-être juste me permettre une petite parenthèse. C'est pas non plus 30 000 ce soir dans la rue, comme je disais d'entrée de jeu, c'est pas si je fais un compte ce soir, on va en arriver à 30 000, mais c'est plutôt 30 000 et plus qui se retrouveront au moins une nuit dans l'année à Montréal en situation d'itinérance. Donc, je pense que c'est important juste de préciser là, pour les auditeurs.
Mais est-ce que vous pouvez encore préciser, est-ce que cette population-là d'itinérants, est-ce que c'est les immigrants qui sont plus touchés ou il y a un particulier...
En fait, c'est assez nouveau qu'on voit des gens issus de l'immigration dans les ressources en itinérance, mais c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est un phénomène que les ressources nomment de plus en plus, de voir des gens issus de l'immigration, soit des gens qui arrivent récemment, ou sinon pour certains, des gens issus deuxième, troisième génération, mais quand même, où avant, le tissu social était peut-être plus présent, un filet de sécurité dans la communauté qui, aujourd'hui, peut-être s'effrite un peu. Oui. Sinon, ce qu'on voit de plus en plus dans les nouveaux visages de l'itinérance, c'est des aînés. Soit des gens qui étaient en situation d'itinérance et qui vieillissent et qui sont dans la rue, qui ont des besoins spécifiques parce qu'ils sont rendus aînés, ou des aînés qui se retrouvent pour la première fois en situation d'itinérance. Oui. Par exemple, ils vont avoir une hospitalisation prolongée, ont perdu leur logement faute de pouvoir le payer, puis au sortir de l'hôpital, mais on n'a nulle part où aller, se retrouve dans les refuges, dans les ressources d'hébergement, dans les centres de jour pour personnes itinérantes parce qu'ils n'ont nulle part où aller. Donc, c'est des nouveaux visages. On voit également de plus en plus de femmes en situation d'itinérance.
Alors, la pauvreté, finalement, j'aimerais bien revenir à Adam, mon collègue Adam, qui vient de Gaspésie, j'imagine.
Oui, c'est ça.
Gaspésie. Adam, il a une formation universitaire
en informatique.
Il est informaticien. Et puis, depuis quelque temps, il ne trouve pas de travail, donc je pense qu'il descend aussi, tel qu'il m'a précisé dans l'enfer de la... Vous êtes presque sous le seuil de la pauvreté, si je ne me trompe pas.
Je suis définitivement sous le seuil de pauvreté.
Et pourtant, vous n'êtes pas un immigrant, vous ne venez pas de...
On peut en profiter, si on veut, pour abattre quelques préjugés.
Exactement,
là, justement,
c'est pas juste les immigrants qui sont touchés, mais par contre...
Absolument pas. C'est pas que les gens qui sont paresseux ou que les gens qui n'ont pas d'éducation, par exemple. Moi, c'est ça, j'ai travaillé toute ma vie, si on veut, jusqu'à un certain point, jusqu'à temps que c'est devenu comme impossible de le faire.
Oui, mais c'est bizarre parce que...
Mais je vais vous expliquer un peu, c'est ça, j'ai formation en informatique, j'ai travaillé au point d'en faire un burn-out. Je me suis recyclé en sécurité informatique. Dans 6 mois, j'ai commencé à faire des conférences internationales.
Oui.
Ça, j'ai fait ça comme moyen de me réinsérer sur le marché du travail à ce moment-là, si on veut, parce que ça a plus ou moins fonctionné. J'ai travaillé 4 mois à Montréal, j'ai perdu mon emploi, j'ai travaillé en France. Une compagnie qui voulait m'avoir pour 5 ans. J'ai dit, on va essayer un an si j'aime ça. La compagnie a fait faillite après 6 mois.
Vous êtes obligé de revenir au Québec.
En 2002, retour au Québec, et là, plus capable de trouver d'emploi dans mon domaine.
Depuis 2008, vous n'avez pas pu trouver.
2002.
Depuis 2002.
2002, monsieur. Et j'ai envoyé nombre incalculable de CV. J'ai fait au moins 500 entrevues en 3 ans.
500?
500 entrevues en 3 ans. Donc, c'est, en moyenne, là, ça fait une entrevue aux 3 jours environ, en moyenne. Donc, à un moment donné, c'est sûr que ça rentre sur le moral. Ça devient difficile, à un moment donné, d'aller se présenter devant un employeur et de paraître motivé et enjoué et confiant quand ça fait 495 refus que tu viens d'avoir en 3 ans.
Mais attends, je comprends pas vraiment. Avec toute l'énergie que tu as, le talent que tu as et tout ça, imaginez-vous, et pourtant, Moi, j'ai de la difficulté à comprendre. Pourquoi on fait venir chaque année 250 000 personnes ici au Québec, là, des immigrants, alors que vous voyez de votre cas, depuis 2000, vous êtes en train de se battre pour trouver un travail, pour chercher votre dignité derrière le travail. Hein,
mais la raison est économique, M. Zutuni, c'est très simple.
Oui, mais est-ce que tu sais que chaque année que le Québec fait en venir ici, au-delà de 2000...
55 000 immigrants au Québec.
155 000 chaque année.
55 000.
C'est quoi ils vont vers quoi, ces gens-là? Vers un mur ou ils vont vers quoi?
Ils vont vers...
Est-ce que c'est un
pas grand-chose, parce que déjà, on n'a pas grand-chose pour nous qui sont déjà ici. Puis là, j'inclus également les immigrants déjà reçus. Là, je ne veux pas faire de séparation.
Mais vous appelez ça un cri,
mais vous voulez avoir la raison pourquoi. C'est très simple. Ça crée une compétition entre les employés. Donc, ça crée une pression vers la baisse des salaires, tout simplement.
Oui.
Moi, avec l'instruction que j'ai, avec X nombre d'années d'expérience, avec la spécialisation que je me suis rajoutée, je me présente devant un employeur, je peux prétendre appliquer pour un salaire de X milliers de dollars. Oui. On prend quelqu'un qui est dans une situation plus précaire, qui a moins d'expérience ou qui vient d'un pays où que les conditions socio-économiques sont moins bonnes, ben lui, il va vouloir prendre le même emploi pour un salaire moindre, aucun problème. Pour l'employeur, c'est de l'argent dans ses poches direct. Et on fonctionne présentement dans un système qui ne fonctionne que sur des principes économiques. Donc, c'est la loupe sur laquelle il faut regarder le problème si on veut comprendre les mécanismes.
Mais on ne peut pas jamais savoir le nombre de personnes qui sont dans votre...
Je ne sais pas. Il y a probablement qu'il y a des statistiques à ce niveau-là.
Mais un nombre très élevé, imaginez-vous.
Je sais que c'est ça. C'est pas le mythe de l'immigrant ou du paresseux ou de la personne non éduquée. Il y a plusieurs diplômés au Québec qui sont en situation d'emploi où est-ce qu'ils sont surqualifiés ou sont en situation de sous-emploi ou de non-emploi. Je ne suis pas un cas isolé, ça c'est clair. Oui. Et là, je vous ai conté mon histoire de 2002 à 2005, mais là, ça, ça se termine pas là. Je suis retourné à Gaspésie, je suis redémarré à zéro. C'est à ce moment-là que je me suis inscrit à l'aide sociale. J'ai été là-dessus 2 mois, le temps de me trouver des emplois. Oui. J'ai cumulé 3 emplois pendant presque 2 ans, le temps d'avoir des heures pour le chômage. Oui. Ensuite de ça, j'ai pu me contenter, entre guillemets, de 1 emploi saisonnier. Salaire à peine plus que minimum, avec des prestations de chômage régulières ou saisonniers. Suite à ça, il y a eu une tentative de démarrage d'entreprise où est-ce que les différents paliers de gouvernement pour l'aide au démarrage n'ont pas fonctionné. Et là, j'en aurais long à dire là-dessus. Là, on parle de corruption et de collusion aussi, possiblement, là-dedans.
Oui, mais
Et pour finalement me ramasser avec cul-de-sac à l'assistance sociale. Et maintenant, ça fait 2 ans, là, et je suis revenu à Montréal depuis ce temps-là. Donc, comme madame disait tantôt, c'est un parcours qui peut être... Dans mon cas, moi, c'est un parcours qui s'étale sur 10 ans.
Et, c'est dans la survie, quoi.
C'est un cul-de-sac et je me suis démené comme un diable dans l'eau bénite pour changer la trajectoire, mais il n'y a rien à faire.
Maintenant, revenons maintenant à Mme Marjoline Dupart. Ces gens-là que vous rencontrez, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à en sortir, finalement?
Oui, il y a des gens qui arrivent à en sortir. Comment? Par différents moyens. C'est sûr qu'on offre beaucoup d'accompagnement, de soutien dans les ressources. Oui. Déjà d'avoir... en 2002, le gouvernement du Québec, en fait, il y a eu une décision du tribunal administratif du Québec qui a donné l'accès à l'aide sociale aux personnes itinérantes. C'est déjà quelque chose quand on
Pourquoi
réussit
elle
à avoir...
Pourquoi elle n'existait pas avant?
Non, c'est interdit parce qu'on n'avait pas d'adresse d'avoir un chèque d'aide sociale, mais il y a un itinérant qui a amené le gouvernement en cours et il a gagné.
C'est un itinérant qui était allé pour demander...
Oui, il y a un avocat qui a soutenu sa cause et ils ont plaidé ensemble devant le tribunal administratif du Québec comme quoi il y avait là un préjudice pour les personnes itinérantes. Et c'est à partir de ce moment-là, en 2002, que les personnes itinérantes ont eu droit à un chèque d'aide sociale.
Si je peux me permettre juste une parenthèse, je crois que ça devrait être un exemple à suivre pour tous les auditeurs, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que les tribunaux, c'est pas accessible, ça prend de l'argent. Si un itinérant est capable de le faire et faire bouger le gouvernement, là, je m'excuse, mais tout le monde à la maison qui écoute, là, on est capable de faire au moins la même chose.
Je m'excuse de juste interrompre là-dessus. C'est effectivement un bel exemple, c'est inspirant. Et depuis ce temps-là, c'est sûr que le chèque, c'est loin d'être assez. Oui. Un chèque de base, je veux dire, les gens...
Le minimum.
Le minimum peine à peine. Hein.
On est à 51% du seuil de pauvreté. Là, on est à la moitié du seuil de pauvreté. Là,
tout
donc,
à fait. Donc, on voit que les gens réussissent pas, font que survivre. Hein. Ils vivent pas bien, mais c'est déjà ça. C'était déjà une avancée. Ensuite, ce qui peut aider aussi des gens à s'en sortir, et nous, on y croit beaucoup, c'est le développement de logement social. Un logement qui va être à 25% du revenu des gens, où on va pouvoir offrir aussi un soutien à ces personnes-là, parce que dans les logements que les membres du RAPSIM développent, parce qu'ils s'en développent quand même, et ça, je pense qu'on peut en être content, ils s'en développent pas suffisamment au Québec, et c'est pour ça aussi que le RAPSIM est membre du FRAPRU pour demander davantage de logements sociaux, mais ils se développent quand même du logement. Et dans les dernières années, il s'en est fait beaucoup à Montréal pour les personnes itinérantes. Encore une fois, pas suffisamment, mais quand même, ils en ont eu. Et offrir un logement social à une personne, c'est lui offrir un logement à un prix qu'elle peut payer, lui offrir un logement décent, d'une bonne qualité, je veux dire, qui est salubre, qui est sécuritaire et souvent qui est accompagné de soutien, qu'on appelle le soutien communautaire, qui peut être de l'aide dans les démarches, de l'aide dans la gestion de conflits entre les locataires si des conflits arrivent. Mais aussi, avec le soutien communautaire, on vise à briser l'isolement. Donc, on va faire des soupers, on va faire différentes activités, souper de partie de Noël, entre les locataires et tout ça pour briser l'isolement, viser l'intégration des personnes. Donc, nous, on y croit beaucoup. Pour nous, c'est une de nos priorités au RAPSIM, le développement de logements sociaux. Donc, on milite beaucoup en ce sens-là. Et pour ça aussi, on va travailler, par exemple, à la préservation du parc de maisons de chambre pour s'assurer qu'il reste des logements à des prix décents dans les quartiers centraux que les personnes peuvent habiter. Et si, en plus, on peut prendre ces maisons de chambre-là, les transformer en logements sociaux, comme on a réussi à le faire quelquefois dans les dernières années, bien là, franchement, on peut offrir des solutions durables à des gens pour réussir à sortir de l'itinérance. Mais il n'y aura jamais une seule solution pour sortir les gens de l'itinérance. Si les parcours sont multiples, il faut que les solutions le soient aussi, parce que chaque individu est différent. Alors, on pourra une solution qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionnera pas nécessairement pour...
Multiplier les efforts.
Exactement. Pas nécessairement pour un.
Mais êtes-vous au courant aussi de la pétition là, pour la fin des subventions fédérales pour le logement social aussi?
Oui, oui.
Alors, vous encouragez tout le monde de signer cette pétition-là qui est en ligne, oui?
C'est une pétition, en fait, entre autres à l'initiative des comités logement et le comité logement du plateau qui a développé une pétition. En fait, c'est que le fédéral subventionne les logements sociaux et puis il y a des conventions qui viennent à échéance et le fédéral ne veut pas renouveler ces conventions. convention-là, ce qui aurait des gros impacts sur les prix des logements. Il y a des chances que les logements, le prix augmente. Donc, on invite les gens, évidemment, à aller signer cette pétition-là pour préserver ces subventions fédérales-là dans les logements. Donc, elle est disponible sur le site là, du comité logement du plateau Mont-Royal.
Très bien, mais parce que c'est le risque qui est très énorme. Il faut faire attention. Imaginez-vous, les gens qui sont subventionnés, qui perdent cette subvention-là, ils vont se retrouver dans la rue, j'imagine.
Il y a des chances, effectivement. Ce sera des gens qu'on pourra considérer à risque d'itinérance.
Oui.
J'aimerais peut-être enchaîner avec ce que vous venez de dire, Mme Despentes. Concernant les parcours multiples qui peuvent mener à la pauvreté, les solutions peuvent être multiples aussi, mais il faut voir qu'il y a des mécanismes qui ont mené à créer un environnement propice à créer la pauvreté. Monsieur Saillant parlait tantôt de mesures d'austérité parce que c'est ce qu'on est. Le mot n'est peut-être pas autant utilisé qu'il peut l'être en Grèce ou en Espagne, mais on se contente de demander si c'est exactement ça. Mmh. Écoutez, on a le FMI aujourd'hui, le Fonds monétaire international, qui est ce qu'il y a de plus d'organisation le plus dogmatique, je dirais, sur tout ce qui est économie, et même eux commencent à avouer que non, finalement, les mesures d'austérité, c'était peut-être pas une bonne idée. Même, je pense qu'ils sont en train de dire que ça résulte d'une erreur de calcul dans une feuille Excel. Mm-hmm. Bon, ça, on peut prendre ça qu'un grain de sel, mais je veux dire, dans les derniers 10 ans ou même 15 ans, on peut remonter jusqu'à milieu des années 90, on peut voir certaines tendances très claires. Là, il y a eu augmentation des frais de loyer qui a été notable, particulièrement à Montréal, surtout au cours des derniers 10 ans. Augmentation des tarifs d'électricité, augmentation de différents tarifs, il y a eu coupure des impôts pour les plus riches, donc perte de revenus pour le gouvernement. Cette perte de revenus-là, ensuite, sert de justification pour des coupures dans d'autres programmes sociaux. Donc, on installe une mécanique ici. Et en même temps, les salaires de la classe moyenne ou de la plupart des gens ont stagné ou ont très peu progressé comparé aux augmentations des dépenses. Donc, à un moment donné, c'est quiconque est un petit peu familier avec le faire un budget, là, l'argent qui rentre, l'argent qui dépasse, qu'on dépense. S'il y a plus d'argent qui sort qu'il y en a qui rentre, à un moment donné, on se retrouve dans le trou. Et c'est ça qu'on constate, là, je veux dire, à grande échelle. Le reste, c'est du facteur humain. C'est les histoires propres à chacun, mais je veux dire, le gouvernement est responsable d'avoir mis une certaine mécanique logique pour favoriser la pauvreté. On constate les résultats tout simplement aujourd'hui. Là.
Tout à fait. C'est sûr que quand on ne travaille pas à redistribuer la richesse,
absolument,
quand on travaille l'écart entre les riches et les pauvres qui ne fait que se creuser, pour nous, c'est une des...
Parce que dans la période que je viens de dire, de 15 ans, il y a eu la plus grande production de richesses de l'histoire de l'humanité. Mmh. Okay? Il y a eu création de richesses. C'est pas comme si la planète était en crise économique comme en 1929. Mmh. C'est le contraire. Mais pourtant, la pauvreté a continué à augmenter, justement, parce que la redistribution ne s'est pas faite. Tout simplement.
Oui, mais monsieur Adam, Richard, à propos de l'humiliation, vous avez devant vous un papier là que...
Oui, oui.
On parle ça des assistants sociaux là qui reçoivent des papiers, qui devront venir des fois. C'est une pratique, convoquer des gens de venir chercher leur chèque au lieu de le recevoir par poste.
De mon expérience personnelle, je ne dirais pas que c'est une pratique qui est courante. Là, ce que j'ai en avant de moi ici, je ne dis pas que ça ne se faisait pas avant, ça se faisait sûrement, mais probablement pas. De manière généralisée, moi, ce que je vois avec la lettre que j'ai devant moi ici, c'est en lien direct, justement, avec les réformes de Mme Maltais, là, ils avaient annoncé qu'ils étaient pour rencontrer tout le monde qui était sur l'assistance sociale, essayer de
les réintégrer.
Ce que je vois, la lettre que je vois, c'était un lien direct avec ça ici. Donc, je voulais lire rapidement. C'est un avis de convocation. Et c'est marqué « Monsieur, votre chèque du 1er mai 2013 ne sera pas déposé dans votre compte. » Pour l'obtenir, vous devez vous présenter au rendez-vous indiqué plus bas. Nous souhaitons vous fournir des renseignements sur les services offerts par Emploi Québec pouvant vous aider à réintégrer le marché du travail. Et là, juste une parenthèse, mais ça, je l'ai déjà fait, puis on m'avait dit « Ah, mais M. Richard, vous êtes bien trop formé, vous n'avez pas besoin de nos services. » Fin de la parenthèse.
Oui.
Juste pour dire que je m'attends pas à grand miracle de cette rencontre-là. Je continue à lettre. De plus, nous voulons nous assurer que vous recevez le crédit d'impôt pour la solidarité. Lors de ce rendez-vous, vous devrez avoir en main cette lettre, une pièce d'identité avec photo, exemple permis de conduire ou carte d'assurance maladie. Et là, il y a une problématique associée à ça, j'en parlerai peut-être un autre jour. Mais c'est juste de savoir...
Oui, c'est ça, OK.
Et cette rencontre, il nous donne l'endroit et la date et l'heure. Cette rencontre nous permettra également de nous assurer que les renseignements contenus dans votre dossier d'aide financière sont à jour. S'il vous est impossible de vous présenter, veuillez en informer votre centre local d'emploi au plus tôt. Le fait de ne pas vous présenter à ce rendez-vous sans motif sérieux pourrait entraîner l'annulation de vos prestations.
Sans motif sérieux.
Et là, le sans motif sérieux, ben, ouais. C'est son tombe. On peut tomber pour un
moment. Mais ça, quel est le sentiment que
et
vous
avez? Et là, juste terminé, c'est marqué la direction du centre local d'emploi. Et en bas, il y a une petite partie détachable. C'est marqué une note. Lorsqu'on vous remettra votre chèque, on vous demandera de signer l'attestation qui suit. Et là, c'est marqué « J'atteste avoir reçu mon chèque d'aide financière de dernier recours pour le mois de mai 2013, avec signature et date. » Donc, la lettre, à son entier, c'est ce que ça...
Mais vous sentez, c'est quoi? C'est-à-dire convoquer quelqu'un qui savent d'ailleurs qu'il n'a pas le... qu'ils vont même pas l'aider pour trouver un travail. Est-ce que c'est une sorte d'humiliation?
Personnellement, je trouve que l'intention est louable.
Oui.
Si
donc
on prend ça d'un point de vue là, détaché, si on veut, il reste que la formulation de la lettre peut précariser certaines personnes.
Exact.
Moi, j'ai déjà eu des communications de la part de l'Emploi Solidarité Sociale lors de l'ouverture de mon dossier à l'époque. Je suis allé porter en personne 3 fois les mêmes documents parce que les documents étaient perdus à l'interne, mais à chaque fois, je recevais une notification « Monsieur Richard, vous êtes coupable de tentative de fraude de ne pas avoir transmis tel document.
Ouais.
Pardon, faites 2 fois, je vais vous porter le même document. Je suis allé porter 3e fois.
Mm. »
Donc, ça, il y a un aspect là, culpabilisateur
et pourtant, Richard,
des jugements sans enquête.
Et pourtant, ça affecte
les personnes.
Mais pardon, c'est pas ça qui reste, c'est pas ça qui manque non plus. Dans le, vous comprenez, ça veut dire que vous êtes déjà c'est contre le...
J'en fais des démarches, je m'attends pas à ce qu'ils fassent des miracles pour moi là-dessus. Là.
Alors voilà, j'aimerais bien peut-être un dernier mot pour vous, Mme Marjoline Dupart. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à les gens qui vous écoutent? Est-ce qu'il y a-t-il un message d'espoir?
Mais je pense que oui, quand même. Ça fait des années qu'on milite au RAPSIM et avec les groupes en itinérance à travers le Québec au sein du réseau Solidarité Itinérance pour demander au gouvernement de se doter d'une politique en itinérance. On a obtenu, en fait, que le gouvernement travaille pour l'adoption de cette politique-là. Il restera à voir qu'est-ce qui sera dedans. Pour nous, c'est important qu'on reconnaisse qu'au jour le jour, les droits des personnes itinérantes se trouvent à être bafoués. Mais quand même, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. C'est sûr qu'ensuite, il faudra s'assurer de ne pas faire d'impair, puis que des réformes comme celle-ci, quand même, comme celle qu'on a actuellement à l'aide sociale, ça nous inquiète dans une perspective où on travaille pour réduire et prévenir l'itinérance. Donc, on va rester mobilisés, puis on invite les gens à continuer de se mobiliser également contre...
On menace quand même ici d'enlever le chèque de dernier recours.
Oui, mais c'est ça, parce que je vois l'espoir un petit peu, qu'elle envoie un message d'espoir, alors que la vérité, c'est un petit peu quelque chose qui...
Il y a espoir dans le fait que le monde se solidarise et proteste.
Voilà, donc, chers auditeurs, malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission. J'aimerais bien remercier M. François Saillon et Mme Marjoline Dupart de leur intervention d'aujourd'hui.
Marjoline Dupart.
Dupart, c'est ça, d'avoir...
M. Zitouni a un peu discuté avec les noms, même le mien, faites-vous en pas.
Tout à fait. Alors, merci pour d'avoir répondu à notre invitation et j'aimerais bien remercier aussi notre technicien de son. Je ne connais pas votre nom. Elle est stagiaire. Et voilà, donc, sur ça, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Et puis, notre thème prochain, la semaine prochaine, il sera probablement autour de « Est-ce que le système public affecte la santé mentale des Québécois ?» Alors, restez à l'écoute. On vous donnera un rendez-vous la prochaine semaine à la même heure. Au revoir.
Sur les murs de ma chambre d'enfant, pour la patience et le temps, pour toutes ces choses qui ont fait de moi qui je suis à présent. Franchir le seuil, dernier coup d'œil de la cuisine au salon, sur les souvenirs de ma vie à la maison. Mais il est temps de partir, me là, le spectacle.
spectacle Harmonica et Tango vous propose un véritable voyage au cœur du tango. Directement de l'Argentine, l'harmoniciste de renommée internationale, Franco Luciani, accompagné du pianiste Daniel Gottfried, vous offre Harmonica et Tango, une soirée mixte qui vous propose d'assister à un concert et de finir sur la piste de danse. Le dimanche 28 avril à 20h30 au Théâtre Rialto, une soirée exclusive de tango comme il n'y en a jamais eu à Montréal. Pour info, théâtrerialto.ca. Réservation 514-770-7773. Fais un vœu célèbre le 29 avril prochain la Journée mondiale du vœu. La Fondation a réalisé le vœu le plus cher de plus de 300 000 enfants malades. Fais un vœu Québec vous invite à souligner cette journée en devenant bénévole, en faisant un don ou en référant un enfant à la Fondation. Joignez-nous sur Facebook ou par téléphone 514-488-9474 sur le site web à faisunvœuqc.ca et faites partie de ceux qui apporteront espoir, force et joie aux enfants du Québec. Merci de croire en la force d'un vœu.
Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centre-Ville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.